Des sous et des amants. Une émission proposée et présentée par Pascal Fourier le vendredi de 18h à 18h30. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-Marie Arribet, qui est professeur d'économie à l'Université Montesquieu de Bordeaux. Alors Jean-Marie Arribet, je suis un petit peu étonnée. Ces derniers temps, on entend de plus en plus souvent parler de développement durable. Est-ce que ça voudrait dire qu'on a enfin trouvé une régulation possible du mode de production capitaliste et de la société de consommation ?
La conférence qui s'est tenue à Johannesburg à la fin du mois d'août 2002 et au début du mois de septembre a contribué largement à faire connaître davantage du grand public cette conception du développement économique qui est née il y a 2 ou 3 décennies. Elle est maintenant tellement ancrée dans les esprits qu'il n'y a plus un seul dirigeant politique, un seul gouvernement, ni aucune institution internationale qui s'aviserait de parler du développement sans y faire référence. Et cette conversion atteint maintenant jusque chez les dirigeants des firmes multinationales qui ont fait littéralement le siège de la conférence de l'ONU pour afficher leurs préoccupations éthiques, sociales, écologiques et donc peser sur le cours des décisions. Alors d'où vient cet engouement pour le développement dit durable? Eh bien, je crois d'une triple prise de conscience. Il y a d'abord eu le constat que les promesses du développement économique n'ont pas été tenues. Alors le développement devait éliminer la misère, devait éliminer la famine, l'analphabétisme, et puis ces maux n'ont pas régressé, et surtout en Afrique subsaharienne. Le développement devait réduire les inégalités, et elles ont littéralement explosé au cours des dernières décennies. Et ce développement devait être facilité par une aide que les pays riches devaient apporter aux pays pauvres à hauteur de 0,7% de leur PIB. Les pays riches s'étaient engagés à fournir cette aide-là aux pays pauvres et cette aide a reculé jusqu'à aujourd'hui 0,24%. Ça, ça a été la première prise de conscience. La seconde est plus récente. Tous les organismes de régulation internationale se sont alarmés des dégâts écologiques causés par un développement dévastateur qui pollue l'eau, qui pollue l'air, qui pollue les sols, qui les épuise et qui épuise en même temps les ressources naturelles à grande vitesse. D'où l'idée qu'il fallait promouvoir dorénavant un développement qui deviendrait soutenable ou durable à la fois socialement et écologiquement. C'est-à-dire un développement qui devait répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs plus tard. Alors, ces deux premières prises de conscience se sont exprimées d'abord à Stockholm lors de la première conférence sur ce sujet de l'ONU en 1972, puis à Rio de Janeiro 20 ans après en 1992. Mais sans l'ampleur prise par la conférence de Johannesburg il y a 2 mois. Parce qu'entre-temps est intervenue la troisième prise de conscience dont je parlais au début, qui a hâté la conversion générale à ce fameux développement durable. Quelle est cette troisième prise de conscience ? Eh bien, après le développement qui a montré ses limites, puisqu'il n'a pas tenu ses promesses, eh bien, ce fut autour de la mondialisation du capitalisme, de la libéralisation financière, de la libéralisation commerciale, de montrer leurs limites. Donc la loi des marchés, la spéculation financière, la mise en concurrence des secteurs les plus traditionnels dans les pays pauvres avec les secteurs ultramodernes des pays riches, ont produit des crises à répétition dans les pays que l'on appelle émergents, notamment en Asie du Sud-Est asiatique, en Amérique latine, et fait ployer les plus pauvres sous le poids d'un endettement croissant et les ont soumis au diktat du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui leur ont imposé des plans d'austérité que l'on a appelés, sur le plan international, des plans d'ajustement structurel. Donc, cette mondialisation financière a produit des dégâts qui ont hâté la conversion au développement durable, puisque même dans les pays riches, États-Unis en tête, on constate la crise d'une économie qui n'avait de nouvelles que sa propension à soumettre toutes les activités humaines à la logique du profit, à l'exigence de la rentabilité. Donc il y a eu, c'est au cours des quelques dernières années que nous venons de vivre, un début de perte de légitimité de ce bonheur que devait nous assurer le marché libéral. Et il fallait donc mettre bon ordre à cette perte de légitimité, et le concept de développement durable est venu à point nommé pour permettre aux élites du monde, aux classes dirigeantes, de retrouver cette légitimité mise à mal. Et donc on assiste en ce moment à un renversement complet, c'est-à-dire que le concept de développement durable qui était censé renouveler le développement pour aider celui-ci à surmonter les difficultés dont j'ai parlé au début, est récupéré par les plus grands naufrageurs de la planète, que ce soit les naufrageurs sociaux ou les naufrageurs écologiques. Et ce renversement, tout à fait étonnant, d'ailleurs on peut admirer la facilité de récupération de ce mot d'ordre de développement durable, il a été possible parce que je crois que cette idée de développement durable repose sur une ambiguïté fondamentale, voire une contradiction insurmontable. Voilà quelques mots pour préciser dans quel contexte cette notion est apparue et pour introduire la difficulté qui nous attend pour débroussailler la question du développement durable.
Oui, difficulté, parce que j'étais quand même un peu étonnée. Je me disais, c'est absolument fabuleux. Subitement, les plus grands dirigeants, les personnes qui détiennent toutes les manettes, ont un grand souci de l'humain, un grand souci de l'éthique dans l'économie.
Mais dans l'esprit de ces promoteurs, le développement durable doit concilier trois impératifs. Un impératif économique, c'est celui de la croissance. Un impératif social, celui d'éradiquer la pauvreté. Et un impératif écologique, celui de préserver les écosystèmes. Et la présentation de ces trois impératifs n'est pas neutre. C'est-à-dire que la croissance économique est censée commander les deux autres. C'est-à-dire que si on atteint la croissance économique, si on atteint l'objectif de croissance économique, considéré comme une condition sine qua non, comme une condition nécessaire absolument indispensable, de la réussite des deux autres, implicitement, on accepte l'idée qui prévaut largement parmi les économistes, selon laquelle, le bonheur de l'humanité, son bien-être, ne peuvent être assurés que par une croissance économique éternelle, indépendamment des potentialités et des possibilités que nous offre la planète Terre pour satisfaire nos besoins, et indépendamment des coûts sociaux que cette croissance entraîne.
Des sous et des hommes, en compagnie de Jean-Marie Haribet. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le jour des grands étonnements. Tout à l'heure, j'étais un peu étonnée que les grands dirigeants aient autant de soucis de l'humain. Et puis là, je suis très, très étonnée qu'on puisse en même temps vouloir préserver la croissance telle qu'elle existe actuellement, qu'elle tente d'exister peut-être même, et en même temps essayer de préserver l'écosystème. On se rappelle que Bush a refusé de signer le protocole de Kyoto justement pour préserver la croissance de son pays. Normalement, il y a antinomie entre continuation de la croissance telle qu'elle est, notamment qui s'appuie sur l'utilisation des énergies fossiles, et préservation de l'écosystème.
Alors, effectivement, vous posez la question la plus difficile à débroussailler, parce que derrière la défense de la croissance économique, il y a implicitement la défense du système économique qui profite de cette croissance économique, le système économique capitaliste, qui ne peut accroître ses champs d'activité que sur une croissance qui serait toujours renouvelée. Alors, le problème est de savoir si, et cette question fait débat parmi les économistes du développement, le problème est de savoir si l'on peut établir une distinction suffisamment solide entre la croissance économique et le développement. traditionnellement, il est dit par la plupart des économistes qui s'occupent des questions du développement et du sous-développement, traditionnellement, ils disent que la croissance économique désigne une augmentation des quantités produites et que le développement économique englobe celle-ci, cette augmentation des quantités produites, mais la dépasse par les aspects qualitatifs que le développement apporte, c'est-à-dire une amélioration de l'état de santé de la population, une augmentation de l'espérance de vie, une augmentation des taux d'alphabétisation, etc. Bon. Le problème est de savoir c'est si l'on peut dissocier ces deux notions ou pas. Bon. Et ce qui est très difficile à comprendre, c'est que vous avez aujourd'hui à peu près, et je schématise un petit peu bien sûr, au moins quatre positions sur cette question-là. Vous avez les adeptes du développement capitaliste éternel qui nous disent que la croissance est dans tous les cas bénéfique et qu'il faut donc la poursuivre possible. Comme argument, ils invoquent l'idée que le progrès technique sera toujours capable de nous donner des solutions aux problèmes que la croissance éternelle engendrerait. Donc, par exemple, certaines ressources naturelles sont en voie d'épuisement, le progrès technique sera à l'avenir capable de remplacer les ressources épuisées par des ressources de remplacement. Bon. Au même titre que, par exemple, on a remplacé le caoutchouc synthétique, on a remplacé le caoutchouc naturel par le caoutchouc synthétique. Et donc, on pourrait multiplier ce type d'exemple. Donc, le pari est que, je répète, le progrès technique sera toujours capable de satisfaire nos besoins. Et donc, si c'est vrai, il n'y a pas de raison d'arrêter cette croissance économique. Ça, c'est la première position. La seconde consiste à dire que la croissance a des effets pervers qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas ignorer. La pollution, entre autres, la pauvreté qui subsiste, mais qu'il faut corriger ces effets pervers, et c'est là qu'entre en action cette idée de développement qui deviendrait durable si on arrive à corriger ces effets pervers. Il y a une troisième position qui consiste à dire le développement jusqu'ici a été dévastateur, il faut donc en finir avec la question du développement et cesser définitivement, pour les riches comme pour les pauvres, de courir après cette chimère. Et il y a une dernière position que personnellement je défends, mais qui est peut-être la plus inconfortable de toutes, que je résume ainsi. Le développement jusqu'ici a été dévastateur, mais on ne peut tirer un trait dessus parce qu'aujourd'hui il y a de tels besoins urgents qui sont insatisfaits à l'échelle de la planète, puisqu'il y a encore 1,5 milliard pratiquement de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, parce qu'il y en a autant qui ont moins d'un dollar par jour pour vivre, ou l'équivalent de moins d'un dollar par jour pour vivre. Et donc, il y a des besoins urgents à satisfaire. Et à ce niveau de dénuement, on ne peut pas opposer la quantité et la qualité, parce que pour alphabétiser, il faut construire des écoles. Et construire des écoles, ça veut dire promouvoir une certaine croissance. Si je veux acheminer l'eau potable, il faut que je construise des réseaux d'acheminement et de distribution de cette eau. Si je veux assurer la santé pour tous, il faut construire des hôpitaux ou des centres de soins décentralisés. Mais il faut toujours donc une forme de croissance économique. Donc l'idée serait dans ce cas-là d'amorcer une décélération de cette croissance inséparable du développement, à mon sens, dans les pays les plus riches, pour s'orienter vers la qualité et pour s'orienter vers d'autres formes d'épanouissement qu'une consommation toujours éternellement croissante, mais pour permettre, dans le même temps, aux pays les plus pauvres de la planète d'accéder à la satisfaction des besoins les plus essentiels que sont une nourriture équilibrée, l'éducation, la santé, et l'accès aux ressources fondamentales comme l'eau, qui aujourd'hui va devenir un enjeu pendant le 21e siècle colossal sur la planète.
Mais est-ce que ça ne remettrait pas en cause radicalement toute l'économie des pays occidentaux ?
Alors, bien évidemment, les dirigeants des pays développés aujourd'hui ont très bien pris conscience que le changement de mode de développement complet à l'échelle de la planète implique des revirements, des remises en cause radicales. Et c'est ainsi, je crois, que l'on peut expliquer la manière dont s'arboutent les États-Unis, pour refuser le protocole de Kyoto dont vous me parliez tout à l'heure. Si les États-Unis ont refusé jusqu'ici de ratifier le protocole de Kyoto, qui prévoit de limiter les émissions de gaz à effet de serre dans les pays, d'abord dans les pays les plus riches, puis progressivement, on espère, dans la plupart des autres pays, si les États-Unis ont refusé, c'est parce qu'ils ont très bien compris que ça remettait même à la marge en cause leur mode de consommation qui est énergétivore, qui est la plus énergétivore du monde à l'heure actuelle, puisque à eux seuls, ils émettent à peu près 25% des gaz dits à effet de serre de la planète. Donc, à Rio de Janeiro, le président Bush, déjà le premier de ce nom-là, déclarait « notre mode de vie n'est pas négociable ». Et Bush Junior suit les pas de son prédécesseur, père, puisqu'il a refusé donc de ratifier ce protocole. Ce protocole, ne nous l'aurons pas, qui est extrêmement timide, parce qu'il prévoit de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de les réduire de 5,2% par rapport à 1990 d'ici 2012. Jamais on atteindra cet objectif. Jamais on atteindra cet objectif parce que pour l'instant il n'est pas en application. Et puis parce que les modalités de son application prévoient de confier la régulation des émissions de gaz à effet de serre à un nouveau marché qui serait un marché où l'on échangerait des permis de polluer. Les autorités internationales émettraient une certaine quantité de droit de polluer pour l'année en cours en fonction des normes que l'on aurait retenues comme acceptables, des normes de pollution acceptables, et ensuite les pays ou les grandes entreprises échangeraient sur cette bourse, donc qui fonctionnerait comme une bourse spéculative sur laquelle on échange des titres financiers par exemple, sur ce marché s'échangeraient donc ces permis d'émission. Donc objectifs timides qui ne seront pas atteints parce que l'évolution de la pollution n'a pas été inversée, la courbe d'augmentation de la pollution est toujours extrêmement croissante, et le moyen qui est prévu pour réguler cette affaire-là a déjà apporté les preuves de son échec dans d'autres domaines. Les marchés ne sont pas susceptibles à eux seuls d'assurer une régulation satisfaisante de la planète.
Des souhaits des hommes toujours, donc, et toujours en compagnie de Jean-Marie Ridet. Je comprends toujours pas très très bien, parce que je vois pas comment on peut prôner en même temps un développement durable qui serait soucieux de l'environnement et ne pas accepter une remise en cause des modes de consommation.
Alors, la conférence de Johannesburg avait officiellement pour tâche de faire le point 10 ans après Rio. D'ailleurs, un surnom avait été donné à Johannesburg, Rio plus 10. À Rio de Janeiro, il y avait eu 3 conventions importante d'adopter. Une convention pour éviter le réchauffement climatique, le protocole de Kyoto était censé y faire suite, une convention pour protéger la biodiversité et une convention pour ralentir la déforestation. À Johannesburg, rien, ou pratiquement rien, n'a été décidé. Il y a eu un blocage sur 2 ou 3 questions importantes, notamment est-ce qu'il fallait adopter une disposition prévoyant de réduire la part des énergies non renouvelables dans la consommation, dans la production et la consommation énergique totale, ou ce qui revient au même, est-ce qu'il fallait fixer une norme pour une norme minimale d'énergie renouvelable, cette fois-ci, dans l'énergie totale, ça a été refusé. Il y a eu un second point d'accrochage autour de la question de l'aide et des subventions agricoles. Les pays du tiers-monde demandaient à ce que les pays riches réduisent leurs subventions accordées à leurs agriculteurs, des pays riches, qui pratiquent une agriculture très intensive, polluante, et qui envoient leur production sur le marché mondial où elles ruinent complètement les agricultures traditionnelles des pays pauvres. Il y a à l'heure actuelle environ 360 à 370 milliards de dollars versés chaque année aux agriculteurs des pays riches, à comparer avec la minuscule aide publique au développement des pays pauvres, qui n'est que de 50 milliards. Donc les pays riches versent 7 fois plus d'argent à leurs agriculteurs qu'à l'ensemble des pays pauvres. Il n'a pas été possible de se mettre d'accord sur cette question-là. Ce qui fait que le de l'avis de tous les participants, de tous les observateurs, le bilan de Johannesburg est encore plus mince que celui de Rio de Janeiro, qui n'était déjà pas très, très, très important. Donc voilà où on en est, et il ne fait pas de doute que, en l'absence de prise de décision nette et ferme sur ces questions qui sont aujourd'hui débattues dans le monde, il ne sera pas possible de déboucher sur quelque chose de positif. Les subventions agricoles, l'aide au développement sont sans doute les pierres d'achoppement les plus importantes pour intégrer progressivement la communauté des pays pauvres dans l'ensemble des discussions internationales.
Et encore un petit point qui me chiffonne, c'est que de toute façon, je vois absolument pas comment les déclarations des pays riches pourraient être autre chose que de l'hypocrisie, dans la mesure où, c'est du moins ce que je comprends quand j'écoute les médias, si on décide de faire décélérer la croissance, je sais pas si le terme serait juste, du coup il y aurait des millions de personnes qui se retrouveraient au chômage en plus.
Alors ça, c'est une question extrêmement délicate parce que elle rencontre, alors pour le coup, une des préoccupations centrales au sein des pays riches. Nous avons passé une période et nous continuons de traverser une période où le chômage est à un niveau extrêmement important et où le ralentissement de la croissance actuelle montre que cette menace-là n'avait été loin d'avoir disparu. Alors comment peut-on à la fois concilier une amélioration du bien-être humain, alors cette fois-ci au sein des pays riches, qui ne placerait pas tous les espoirs dans une croissance infinie. Eh bien, je crois que le patronat, le MEDEF, l'a compris à l'envers, mais il l'a bien compris. Pourquoi a-t-il renaclé tant contre la réduction du temps de travail et pourquoi a-t-il tout fait pour que le nouveau gouvernement remette en cause la timide loi des 35 heures? Eh bien, parce qu'ils ont très bien compris que la réduction du temps de travail était une manière de répartir les gains de productivité. La productivité atteint des niveaux très élevés, elle continue de progresser dans les pays riches, et la réduction du temps de travail est une façon de les répartir pour une autre finalité qu'une augmentation perpétuelle de la production et donc par conséquent de la consommation. Et je crois personnellement que la réduction du temps de travail, d'abord c'est une des plus vieilles revendications du salariat, hein, des salariés depuis deux siècles. Elle a toujours été au centre des combats ouvriers les plus importants de toute l'histoire ouvrière, et elle continuera à être un enjeu essentiel, parce que par le biais de la réduction du temps de travail, on peut amorcer, je crois, une véritable réorientation des finalités de l'appareil productif et donc des finalités du travail humain. Est-ce qu'il faut travailler toujours plus pour produire toujours plus et consommer toujours plus, donc renouveler nos voitures tous les deux ou trois ans, voire plus, ou bien au contraire, faut-il utiliser ces gains de productivité pour améliorer la qualité de la vie, avoir du temps pour soi, avoir du temps pour vivre? Et ça, le patronat l'a très bien compris. Le patronat l'a très bien compris parce que pendant que vous distribuez une partie des gains de productivité sous forme de réduction du temps de travail, vous êtes obligé de remettre en cause la répartition des revenus. Et ça, c'est mettre en relation la réduction du temps de travail et la répartition des revenus, c'est s'attaquer au cœur du système.
Là, on s'est un peu éloigné du développement durable, alors on y revient ?
On était parti de l'idée que le développement durable était empreint d'une ambiguïté fondamentale. Pour lever cette ambiguïté, je crois qu'il faut miser sur la qualité de la vie, la qualité de la production, la qualité du travail, et donc faire en sorte que l'augmentation de la productivité qui est permise par le savoir-faire humain et qui est permise par l'amélioration des techniques que ce savoir-faire humain amène soit utilisée essentiellement pour assurer la promotion des êtres humains et pour assurer la préservation de l'avenir de la vie sur la planète, la préservation des conditions de la vie sur cette planète, et à ce moment-là, on pourra parler de durabilité. Mais si la durabilité devait se résumer à faire durer ce qui a existé depuis deux siècles, alors là, je crois que nous serions face à une mystification gigantesque.
Eh bien, merci Jean-Marie Haribet pour toutes ces explications. Je suis assez contente quand même de pouvoir dire qu'on va vous retrouver la semaine prochaine, parce que quand on vous a sous la main, on ne veut pas vous lâcher. En attendant, si les auditeurs veulent vous retrouver, ils peuvent acquérir le petit livre que vous avez écrit qui s'appelle La démence sénile du capital. On le trouve, je pense, plutôt en le commandant aux éditions du Passant Ordinaire. La semaine prochaine, vous nous parlerez de deux gros mots très importants, capitalisme et libéralisme. À la semaine prochaine.